Orient Extrême. L'actualité asiatique vue par Adextra, première plateforme de l'action missionnaire en Asie. Une émission présentée par Joseph Saunier.
Dans cette phase de changement économique, culturel et politique, où souvent l'être humain se sent en proie à l'angoisse et au désespoir, les messagers de l'Évangile, même s'ils annoncent la paix et l'espérance, continuent à être persécutés. Le message du Christ, aujourd'hui comme hier, ne peut s'adapter à la logique de ce monde, car il est prophétie et libération. Les martyrs chrétiens sont donc une réalité tragique, mais ils sont indispensables à la croissance de l'Église. Amis auditeurs, bonjour. Ce constat de Benoît XVI est saisissant. Encore aujourd'hui, des millions de chrétiens sont persécutés pour leur foi et souffrent dans le silence. Ce sont eux qui font grandir l'Église, nous dit Benoît XVI, car ce sont des témoins authentiques de l'Évangile. Je vous propose à présent de faire un point sur la liberté religieuse à travers le monde. Amis éditeurs, vous êtes bien sur Orient Extrême, l'émission des missions étrangères de Paris, qui vous plonge au cœur de l'Asie, sur Radio Notre-Dame et RCF. Et je reçois aujourd'hui Benoît de Blanpré, directeur national de l'aide à l'Église en détresse. Bonjour monsieur.
Bonjour Joseph.
Benoît de Blanpré, est-ce que vous pouvez nous présenter brièvement l'AED, l'aide à l'Église en détresse ?
D'abord, merci beaucoup de nous accueillir. L'AED, notre mission, c'est de soutenir les chrétiens partout dans le monde lorsqu'ils sont confrontés soit à la persécution, soit à l'oppression, ou lorsqu'ils vivent dans des conditions matérielles difficiles qui les empêchent de vivre simplement et librement leur foi.
Est-ce que vous pouvez nous faire un état des lieux général de la situation des chrétiens dans le monde ?
J'ai envie de dire que être chrétien aujourd'hui dans le monde ne va pas toujours de soi. Et on parlait de liberté, vous parliez de liberté religieuse dans votre introduction. La liberté religieuse est un bien fragile et précieux qui se détériore d'année en année. Tout comme d'autres associations, nous faisons des bilans de la situation des chrétiens dans le monde et nous remarquons que dans de plus en plus de pays, cette liberté est attaquée ou grignotée. Et donc c'est un bien précieux qu'il faut défendre, parce que la liberté religieuse ne va pas de soi. Et il y a beaucoup d'ennemis de la liberté religieuse aujourd'hui dans le monde, et les chrétiens ne sont pas épargnés. On pourra voir ensemble les différentes menaces, mais que c'est sur les 5 continents, des millions de chrétiens vivent leur foi, parfois au risque de leur vie.
Donc, quand je parle de persécution, est-ce que le mot est trop fort, ou est-ce que réellement, vous avez des personnes qui meurent encore aujourd'hui à cause de leur foi ?
Le martyr, ça n'est pas qu'une histoire du passé, ça n'est pas qu'une statue ou une jolie peinture dans nos églises. Certes, c'est l'histoire de l'Église, mais c'est la réalité de l'Église aujourd'hui dans le monde. Joseph, permettez-moi un témoignage. Je sais que nous allons particulièrement parler de l'Asie. Je voudrais vous parler de l'Afrique. Cette semaine même, j'étais au téléphone avec un ami prêtre du Burkina Faso, où les djihadistes attaquent violemment les chrétiens. Ce père, le père Jean-Pierre, au nord du Burkina Faso, son village et sa paroisse ont été attaqués par 2 fois. Je parle des 10 jours qui viennent de s'écouler. Son père a été tué. 2 de ses cousins ont été tués. 2 de ses oncles ont été tués. Des paroissiens, des nouveaux baptisés, une trentaine de personnes dans les 10 jours qui viennent de s'écouler ont été tués au nord du Burkina Faso, dans des paroisses chrétiennes, parce qu'ils étaient chrétiens. Personne n'en parle. Tout ça se vit dans une indifférence et un silence coupable. Mais c'est la réalité de l'Église aujourd'hui dans le monde. Je parle de l'Afrique, on pourrait parler de l'Amérique latine, on peut parler de l'Asie, mais le martyr, c'est la réalité de l'Église aujourd'hui dans le monde.
Vous parlez d'un silence coupable, vous parlez d'une Église qui souffre et qui est persécutée. Est-ce que le christianisme est une religion persécutée ? Est-ce qu'on peut dire que c'est même la plus persécutée dans le monde ?
Alors, je crois que c'est la plus persécutée. Vous savez, l'Église, vous le savez bien, elle défend la vérité, la liberté et la vie. Eh bien, il y a beaucoup d'ennemis de la vérité, de la liberté et de la vie. Les dictateurs, les pouvoirs autoritaires, les djihadistes, autant de personnes qui détestent que l'Église proclame que l'homme est libre, qu'il est, que toute vie mérite d'être vécue, qui proclame la vérité et la liberté des personnes. Voilà, ça irrite, ça agace, et du coup, pour cela, des chrétiens, des paroisses sont attaquées aujourd'hui partout dans le monde.
Benoît Blanpré, j'ai décidé de vous inviter suite à ce rapport qui est paru il y a quelques semaines par une ONG protestante, l'ONG Portes Ouvertes, qui met à jour l'index de la persécution chrétienne dans le monde en 2024. Quelles leçons tirer de ce rapport de Portes Ouvertes ?
Alors, on connaît très bien Portes Ouvertes. J'ai souvent l'habitude de dire que ce sont nos cousins germains. On a un vocabulaire tout à fait commun, une mission au service de l'Église dans le monde tout à fait proche. Donc on les aime beaucoup et on lit avec beaucoup d'attention le rapport qu'ils publient. Et on a les mêmes constats. Portes Ouvertes dit qu'un chrétien sur sept dans le monde vit dans un pays où la liberté religieuse n'est pas respectée. On a ce même constat. Il parle de 380 millions de chrétiens qui vivent dans des pays où la liberté religieuse n'est pas respectée. C'est également des chiffres que nous avons. Et ensuite, ils font des catégories, ils catégorisent les différentes persécutions, notamment en Afrique. On a cette même observation. En Asie, nous observons aussi des difficultés communes. On en parlera de la Chine, de la Corée du Nord, de la Birmanie. Ils portent leur regard sur l'Amérique latine. Les constats sont communs. Donc, j'ai envie de dire, l'étude est tout à fait similaire et nous nous désolons, et eux et nous et d'autres associations, encore une fois, ce qu'on disait en introduction, de la détérioration de la liberté religieuse dans le monde et de la difficulté pour de plus en plus de chrétiens dans le monde de vivre leur foi librement. Encore une fois, un chrétien sur sept dans le monde vit dans un pays où il peut être directement ou indirectement menacé, tout simplement parce qu'il est fidèle au Christ.
Pour être très concret pour nos auditeurs, est-ce que vous pouvez nous citer le podium de ces pays où c'est le plus difficile pour un chrétien de vivre sa foi ?
La Corée du Nord, évidemment, hélas, j'ai envie de dire évidemment, ça, oui, ça apparaît comme ça, mais voilà, je pense qu'en Corée du Nord, aujourd'hui, la menace est totale et que le régime contrôle absolument tout.
On a des informations de la Corée du Nord ? On sait ce qui se passe ?
Très, très peu. Le peu d'informations que nous avons, nous les divulguons très peu pour ne mettre personne en danger. Situation que vous connaissez également sur la Chine, où chacun est très prudent sur ce qu'il peut dire. Nous savons des choses, chacun d'entre nous, les missions étrangères, l'AED, Portes Ouvertes, mais pour ne jamais mettre en danger les communautés que nous soutenons, il y a des choses que nous ne pouvons pas dire, et c'est parfois une difficulté. On veut parfois dénoncer des situations, et dans le même temps, il faut savoir se retenir, parce que notre priorité, c'est de défendre et de protéger les communautés que nous aimons et que nous aidons. Donc parfois, il faut être très discret. On sait qu'en Birmanie, aujourd'hui, la situation est également très difficile. On se souvient là du triste anniversaire du 4e année du renversement du pouvoir. Et puis, on peut tourner notre regard vers l'Afrique, on en parlait tout à l'heure. Le Nigeria et le Burkina Faso sont des lieux où le terrorisme islamiste se répand avec une violence et une rapidité stupéfiantes. Là aussi, dans un silence international redoutable. Et puis, notre cœur est aussi tourné vers l'Amérique latine. L'Amérique latine qui, dans la conscience populaire, ce sont des pays qui sont de tradition catholique, c'est vrai, et les chrétiens sont nombreux, mais il y a des pouvoirs autoritaires très forts, et on le disait tout à l'heure, qui détestent l'Église, qui dénoncent la corruption, qui dénoncent les dictateurs, qui dénoncent les trafics humains en tout genre, et parce qu'elles dénoncent ces trafics, est sommée de se taire.
On a très peu d'informations sur la Chine et vous en parliez tout à l'heure. Est-ce que vous pouvez nous parler plus de la manière dont les chrétiens en Chine ont des difficultés pour vivre leur foi par rapport au gouvernement central ? On a du mal à savoir si réellement la liberté religieuse est très restreinte ou si en fait il y a quand même la place pour les chrétiens, pour les catholiques de vivre leur foi. Est-ce que vous pouvez nous donner peut-être des choses concrètes pour qu'on puisse mieux discerner la situation ?
L'impression que j'ai, c'est que la pratique catholique est strictement contrôlée. Avec les gens, les populations peuvent pratiquer leur foi, mais dans un cadre strictement défini par le parti. Et dans ce cadre, ils peuvent évoluer, mais toujours et constamment contrôlés de bien des manières. On sait que les caméras de vidéosurveillance permettent de contrôler les mouvements de toute la population. Donc voilà, je dirais que c'est une liberté sous surveillance, sous cloche. Et si les catholiques respectent les directives du pouvoir, alors ils peuvent pratiquer leur foi. Voilà, est-ce que c'est une définition de la liberté? J'en suis pas si sûr, mais encore une fois, je le dis avec beaucoup de prudence, parce que voilà, je connais d'autres pays où il est strictement impossible de vivre sa foi catholique. En Chine, on constate que c'est possible, mais dans un cadre contraint.
C'est possible avec cette église d'État et cette église souterraine?
Absolument.
Et différentes régions peut-être
qui... Oui. Dans tous les pays que nous mentionnons, là, je reviens bien là-dessus, vous avez raison Joseph, on dessine toujours à grands traits des situations, mais si on parle de la Chine, de l'Inde ou de l'Afrique, ça veut tout et rien dire, parce que l'Afrique, il y a autant de situations que de pays. Si on parle de l'Inde, c'est le pays est colossal, de la Chine encore plus. Donc effectivement, il faudrait prendre le temps des heures et des heures pour distinguer les situations. Donc n'allons pas trop vite dans les définitions, mais c'est sûr que voilà, pour la Chine, il y a objectivement une surveillance et un contrôle. Et l'Église, moi c'est ce que je vois, je l'ai vu quand j'étais au Pakistan, un évêque qui me disait, je lui demandais, est-ce que la liberté religieuse progresse dans votre pays? Il me disait, je ne sais pas si elle progresse, mais nous progressons pour nous adapter à la situation de la liberté religieuse. Donc oui, l'Église, elle est maligne et elle est capable, selon les situations, de s'adapter au mieux pour permettre à chacun de vivre sa foi.
Vous avez évoqué il y a quelques instants un pays qui, moi, me tient beaucoup à cœur et on n'en parle quasiment jamais en France, c'est la Birmanie. La Birmanie qui connaît une guerre civile très importante. Comment les chrétiens arrivent à vivre leur foi au cœur de cette guerre civile? Quelle est leur position politique? Est-ce que les chrétiens, d'ailleurs, ont-ils à tenir une position politique? Quelle est la situation des chrétiens en Birmanie?
Alors, nous, notre cœur s'est spécialement tourné vers la Birmanie, depuis 4 ans, au moment du renversement d'Aung San Suu Kyi. Un petit témoignage, moi j'ai travaillé pour Enfants du Mékong pendant 11 ans, donc je suis très proche de l'Asie du Sud-Est. Cette semaine dernière, nous avons avec l'AED, l'ensemble des bureaux de l'AED, nous avons organisé 24 heures de prière continuelle pour les chrétiens de Birmanie et plus largement pour la paix dans ce beau pays. Il se trouve que l'AED est constituée notamment de 24 bureaux à travers le monde, comme le bureau français. Et du coup, ces 24 bureaux, chacun s'était engagé à prier une heure. Donc déjà, une petite chose que je peux dire, pas si petite que ça, c'est que la première chose que nous pouvons faire dans ces pays où parfois on ne sait pas exactement ce qui se passe et puis souvent c'est très difficile de faire parvenir une aide matérielle, c'est que notre première arme... c'est la prière. La prière, humainement, pourrait paraître dérisoire face à des régimes autoritaires ou des conflits très graves. Mais nous, comme chrétiens, comme catholiques, nous sommes persuadés que la prière pénètre les cœurs et qu'en priant, hic et nunc, pour nos frères en Birmanie, cela permet concrètement de soutenir leur espérance, de leur apporter le réconfort dont ils ont besoin dans des situations qui sont particulièrement difficiles. Vous posiez la question, est-ce que les chrétiens doivent s'engager politiquement? En tout cas, ils ont une parole à défendre et on l'a dit tout à l'heure, ils doivent à temps et à contre-temps défendre la liberté, défendre la vérité et défendre la vie. Donc, dans tous les endroits dans le monde où la liberté n'est pas respectée, la personne humaine n'est pas respectée et où la vérité est tronquée, l'Église doit porter sa parole et doit avancer courageusement pour annoncer le Christ.
Benoît de Blanpré, on vous écoute avec passion, mais c'est déjà l'heure de faire notre petite pause musicale. Amis auditeurs, restez bien avec nous. On se retrouve tout de suite, juste après ça. Thank you.
suis née dans la peau, sans aucun horizon, que rester à genoux, sans chercher de raison. Je suis née dans la peau, parce que c'était ma place. Alors pourquoi moi, si ce n'est pour vous, alors pourquoi moi, si ce n'est pour vous, alors pourquoi moi, si ce n'est par vous. Je suis née de la boue, en y trouvant l'eau claire qui m'a tenue debout pour m'éloigner de terre. Je suis née de la boue, d'être l'une des vôtres. Alors je suis là, je le suis pour vous. Alors je suis là, je le suis pour vous. Alors je suis là, je le suis.
Amis éditeurs, vous venez d'entendre Emma, Pourquoi moi, dans le spectacle musical de Bernadette de Lourdes. Et nous retrouvons Benoît de Blanpré, directeur général de l'aide à l'église en détresse. Benoît de Blanpré, vous nous parlez de la situation en Birmanie. Vous êtes, en tant que directeur général, souvent amené à vous rendre sur le terrain. Quelles histoires est-ce que vous avez à nous raconter de ces chrétiens persécutés? Quand vous allez sur le terrain, qu'est-ce que vous disent ces chrétiens?
Ce sont des témoignages absolument édifiants et bouleversants. Je rencontre des chrétiens qui vivent leur foi au risque de leur vie ou dans un inconfort total et qui pour autant ne renient jamais le Christ. Et ça, c'est, on se demande qu'est-ce que je ferais à leur place. J'étais au Pakistan il y a quelques mois et j'ai rencontré un père de famille qui a été 5 ans en prison pour avoir manifesté, pour demander à ce que son église soit protégée pendant la messe, parce qu'il y avait eu un accident, un attentat suicide, pardon. Il a été mis 5 ans en prison. Il était traité comme un chien, à tel point, me disait-il, qu'on leur donnait la nourriture dans la gamelle des chiens, pour bien leur montrer qu'ils étaient des chiens. Et le Pakistan, c'est évidemment un pays totalement musulman. J'ai demandé, monsieur, comment avez-vous fait pour survivre ? Il m'a dit, chaque jour, nous récitions le chapelet et nous chantions les psaumes. Et ensuite, il m'a dit, tous les jours, les geôliers venaient me voir en disant, si tu te convertis à l'islam, nous te libérons. Et il ne l'a jamais fait. Je lui dis, comment vous avez fait pour tenir ? Il m'a dit cette phrase, Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. Je suis édifié par tous ces chrétiens souffrants qui vivent dans leur chair la foi catholique et qui pour autant jamais ne renient le Christ. Ce sont des témoins de foi, ce sont des maîtres de courage, ce sont des maîtres d'espérance. Et c'est le témoignage que nous rapportons quand nous rentrons en France, c'est-à-dire nous avons des frères qui souffrent et bien sûr qu'il faut prier pour eux, il faut les soutenir, mais en retour, leur témoignage de foi qu'ils nous apportent vient nourrir notre propre foi. Il y a un très bel échange. C'est vraiment la communion des saints, c'est l'Église universelle. Quand un membre est souffrant, tous partagent sa souffrance. Et quand un membre est dans la joie, tous partagent sa joie. Et c'est ce que nous vivons au quotidien à l'AED. C'est nous voyons et nous témoignons en permanence de la détresse profonde de milliers de chrétiens. Et dans le même temps, nous sommes les témoins émerveillés et puis nous diffusons cette espérance exceptionnelle de l'Église souffrante à travers le monde.
Est-ce que vous avez des intentions de prière pour 2025, des situations qui, pour vous, sont plus préoccupantes et sur lesquelles vous invitez nos auditeurs peut-être à porter plus leur attention et leur prière ?
Bien sûr, cette année, c'est un cadeau qui est fait à l'Église, c'est le jubilé de l'espérance. J'ai envie de dire, rarement autant que cette année, peut-être le monde avait besoin d'espérance. L'espérance, ça n'est pas l'espoir que demain tout ira mieux, on sait bien que le monde va de mal en pis. L'espérance, c'est la certitude que Dieu est présent au cœur des épreuves. Et c'est vraiment ce pourquoi nous pouvons prier maintenant et inviter les auditeurs, c'est de prier pour que nos frères chrétiens souffrants gardent l'espérance. J'étais au téléphone avec ce prêtre africain dont je vous parlais, et qui a perdu son père, des cousins, des oncles, etc. Je dis père, je ne sais pas quoi faire, humainement je ne peux rien faire, je peux juste prier pour que vous ne perdiez pas l'espérance. Il m'a dit, c'est exactement ça, Benoît, dont j'ai besoin, priez pour que je ne perde pas l'espérance. Alors, prions pour que l'espérance reste au cœur de nos frères au Moyen-Orient, en Chine, au Pakistan, en Inde, au Burkina Faso, au Nigeria, au Nicaragua, tous ces pays que nous avons évoqués. Prions pour l'espérance, prions pour que les chrétiens souffrants sentent la présence de Dieu à leur côté.
Benoît XVI déclarait que les martyrs chrétiens sont une réalité tragique, mais ils sont indispensables à la croissance de l'Église. Vous, Benoît de Blanpré, qui côtoyez ces chrétiens, qui êtes au quotidien à leur côté, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette phrase ? Comment est-ce que vous la recevez ? Quelle méditation vous en faites ?
Paradoxalement, au cœur de la détresse naissent des vocations extraordinaires. Au cœur de la détresse, l'espérance, la présence de Dieu. J'étais en Afrique il y a quelque temps et un évêque au Nigeria m'a demandé que l'AED l'aide à financer 50 chambres supplémentaires dans son séminaire, dans le séminaire de son diocèse. Il y a énormément de diocèses au Nigeria. Là, c'était l'évêque d'un diocèse. 50 chambres supplémentaires. Des jeunes garçons qui voient qu'être chrétien se vit au risque de sa vie. Ils voient que dans leur diocèse, les églises sont attaquées, que des gens sont tués. Eh bien, cette foi qui est passée au feu de la vérité, eh bien, fait naître des vocations extraordinaires. Donc oui, le sang des martyrs et semence des chrétiens, cette phrase, on la connaît, mais c'est une réalité. Je vois que dans nos pays occidentaux, malheureusement, où on vit confortablement, enfin, je veux dire, c'est très bien que nous vivions confortablement, où la liberté religieuse est totale, on a bien du mal à avoir des vocations. Et paradoxalement, dans les pays dans lesquels je me rends et auprès desquels nous travaillons, je vois des vocations fleurir. Donc ça, c'est le mystère de Dieu. C'est que là où il y a souvent les plus grandes souffrances, il y a les plus grandes vocations. Nous prions pour tous ces jeunes qui s'engagent et puis prions pour les vocations aussi en France et dans nos pays occidentaux.
Vous nous parlez de cette demande d'un évêque. Quel projet porte l'AED pour 2025 ?
Notre mission, aider l'Église à vivre, à survivre et à agir malgré les épreuves. Donc nous aidons à construire des églises, à former des séminaristes, à acheter du matériel pour des prêtres, à donner des moyens de subsistance pour des religieuses. Voilà, partout où l'Église a besoin d'être soutenue matériellement et spirituellement pour lui permettre de poursuivre ses missions, l'AED est présente. Nous travaillons sur les 5 continents, dans 140 pays. Et un mot sur la charité. La charité de nos bienfaiteurs me bouleverse. Nous avons des milliers de bienfaiteurs qui prennent au sérieux cette phrase de saint Paul. Quand un membre est souffrant, tous partagent sa souffrance, alors qu'ils donnent un peu de leur nécessaire pour aider l'Église à travers le monde. C'est la beauté de l'Église universelle, c'est la beauté de la communion des saints. Et par nos prières, par nos dons, à travers l'AED et tant d'autres œuvres, nous pouvons concrètement dire à nos frères et sœurs chrétiens souffrants que nous ne les oublions pas.
Ouais, je rebondis sur ce que vous dites, Benoît de Blanpré. Moi, comment, en tant que jeune de 21 ans, je peux aider ces chrétiens persécutés ?
D'abord, vous informer. Le pire, hein, c'est que quand ces chrétiens souffrent dans l'indifférence et l'ignorance. Savoir la situation de nos frères est absolument essentiel. Deuxièmement, prier. On l'a dit, la prière est agissante, la prière est réconfortante, la prière soutient l'espérance. Troisième action, la charité. Donner un peu de son temps, donner un peu d'argent pour permettre concrètement à l'Église de survivre. Informer, prier, agir, ce sont les trois piliers de l'AED.
Merci beaucoup, Benoît de Blanpré, d'avoir répondu à mes questions. Merci d'avoir accepté mon invitation. Et merci à vous, amis auditeurs d'Orient Extrême, pour votre fidélité. N'hésitons pas à relayer largement ce podcast, c'est très simple. Vous allez sur Google, vous tapez Orient Extrême Podcast sur RCF ou sur Radio Notre-Dame et vous retrouvez le podcast que vous pouvez ensuite largement diffuser, envoyer. N'hésitons pas à relayer ce podcast, n'hésitons pas à prier pour nos frères chrétiens persécutés. La prière porte toujours des fruits. Benoît de Blanpré nous l'a encore rappelé. Excellente semaine à vous tous, amis auditeurs. Que la paix soit avec vous.